Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté? Celle qui tous les jours vous en va poser. Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre débarras.
Vous courez bien vite, sinon on va vous massacrer.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs, plus ou moins visibles, des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes. Sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Ce soir, donc, au programme de l'émission, vous aurez droit à la chronique de la CLIM, donc collectif de lutte et d'information migrants-migrantes, qui partagera l'antenne avec le collectif Étrangers Malades. Et je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans quelques instants. Nous parlerons ensuite de la répression qui s'abat sur les soutiens des militants Notav contre la ligne Lyon-Turin. Ceux des prisonniers du centre de rétention de Rouen, et nous reviendrons sur le cas de Tuteo Béa qui a souhaité mourir en prison. Nous vous expliquerons pourquoi. Sur la condamnation de la maison d'arrêt de Fresnes à détruire les murets de ses parloirs et sur les mesures prises par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, depuis son élection en matière de sécurité. Un programme passionnant. Et donc vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 05 61 53 36 95 et c'est parti pour la musique.
Tout de suite, la CLIM. Ensuite, le point météo de Monique.
La France subit de nouveau de multiples perturbations climatiques. Ces dernières semaines ont vu souffler sur tout le pays un vent de contestation entraînant de belles éclaircies. Vent violent, particulièrement sur les côtes de la Manche, notamment à Calais, où nous avons pu voir des bourrasques renverser les barrières surmontées de barbelés installées en novembre dernier autour du port, dans le cadre du dernier accord franco-britannique. Le vent avait une première fois sévi le 27 décembre, puis récidivé le 15 janvier, entraînant la chute d'une partie de ces barrières sur environ 300 mètres de longitude est. Face à ces intempéries, les autorités françaises et britanniques ont décidé de les démonter face à un ciel plutôt engagé. À noter, toutefois, pour les prévisions de la journée de demain, de fortes perturbations concentrées sur le centre-ville toulousain, particulièrement sur le square Charles de Gaulle.
Rassemblement contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, métro Capitole, 18h30.
Et qui resteront présentes une bonne partie de la soirée, avec des températures au-dessus des normales saisonnières.
Merci Monique. Un flash info sur le dernier rapport publié par l'ONG Human Rights Watch après une mission d'enquête à Calais dénonçant la situation générale des exilés et en particulier les violences policières qu'ils subissent. Le préfet et le ministre de l'Intérieur répondent,
comme ils le font depuis des années,
qu'ils ne sont au courant de rien et que la police fait son travail.
Cela va de soi.
Violence que les collectifs sur place dénoncent déjà depuis longtemps.
Vive le vent, vive le vandalisme. De Calais jusqu'à Toulouse, partout on résiste.
Voilà, voilà. Tout de suite, on va faire un petit retour sur le week-end de la semaine d'il y a deux semaines.
C'était le 17-18.
Oui, le 17-18, le week-end d'information migrants-migrantes à la Chapelle. Eut un grand succès, puisqu'on a environ 300 personnes qui sont passées sur la journée du samedi à la Chapelle. Avec des expos, des films, des discussions, un bon goûter. Une grosse participation du collectif Étrangers Malades qui va nous en parler tout à l'heure, qui avait pour l'occasion conçu des expos, écrit des témoignages, la Canaille du Midi et un théâtre forum animé par l'école citoyenne qui a aussi eu un grand succès. Voilà, cette journée nous a montré que la nécessité de se rassembler et d'échanger sur ces questions-là. Et à renouveler très très vite. Le lendemain, on a fait une manifestation au centre de rétention administrative de Cornebarieux, où on était un peu moins nombreux, mais avec plein d'entrain, on a fait plein de bruit, et voilà, c'était chouette.
Et il faisait beau.
Ouais.
Un peu venteux.
Pour le point météo.
Ah oui, pardon, j'ai pas rebondi.
Voilà, et tout de suite, on va laisser la parole à Faisal qui va présenter le collectif Étrangers Malades. Pardon.
Bonsoir. Pardon. En fait, le collectif Étrangers Malades existe depuis 2011. Il s'appelait le groupe Étrangers Malades. On a changé juste le nom du collectif. En fait, il y a des personnes concernées au sein du collectif, des personnes concernées par le titre de séjour pour soins, soit des personnes concernées directement, c'est-à-dire malades ou accompagnants d'enfants ou de conjoints malades. Ce collectif, depuis quelques années, est en train d'essayer de parler de ces personnes qui sont plus ou moins mises à l'écart et qui sont dans une difficulté assez considérante et qui ne sont pas qui ont des difficultés en ce moment-là surtout. Ils ont des refus de séjour de plus en plus. Il y a des personnes même qui ont été régularisées pendant des années et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Alors on s'est dit, c'est le moment de réorganiser ce collectif pour essayer de parler des personnes, de ces personnes-là. Et voilà. Et le but de ce collectif, c'est d'essayer de créer un pont entre ces personnes et d'autres associations et d'autres avec d'autres usagers aussi et essayer de voir et être en solidarité les uns avec les autres et essayer de lutter ensemble. Et voilà, et justement, la soirée, c'était une occasion d'essayer de faire parler du collectif. C'était une soirée d'information. Et on a essayé de montrer tous les outils qu'on a déjà préparés auparavant. Il y avait plein d'idées. Il y avait l'idée déjà du journal. On a commencé à rédiger un journal mensuel, normalement. On a déjà fait une première édition, on attend la deuxième édition du journal. Et ça parle des parcours de ces personnes-là. C'est des personnes qui racontent leur propre parcours ou des parcours de personnes qui ont été en difficulté et qu'on s'est mobilisé ce jour-là. Et d'autres, dans plusieurs occasions, pour les soutenir, comme c'était le cas d'un monsieur géorgien, pardon, d'un monsieur géorgien qui a été expulsé et ensuite qui est revenu et qui est très malade et qui se retrouve dans une situation catastrophique. Une autre personne aussi qui a reçu une OQTF et qui s'est retrouvée qui a fait un recours au tribunal administratif. Nous sommes mobilisés pour aller le soutenir. En tout cas, il y avait plein de mobilisations de ce genre pour essayer d'aider ou d'être en solidarité avec ces personnes-là.
Le journal dont tu parles, c'est un journal que vous diffusez
Pour l'instant, par manque de moyens, bien sûr, on essaie enfin de distribuer le journal ou le faire vendre, enfin, pour avoir un peu, c'est l'impression qui coûte cher aussi. Et on essaie de le distribuer surtout aux personnes concernées, parce que certaines personnes qui sont concernées par le site de Séjour étranger malade ne savent pas, soit comment, ne connaissent pas la procédure. Et on essaie aussi, à travers le journal, de corriger, justement, certaines idées reçues ou certaines procédures qui ne sont pas correctement suivies par des personnes concernées, soit à la préfecture, soit en allant, par exemple, chez un médecin traitant pour demander un rapport médical. Voilà, on corrige certaines... le parcours, on leur montre, on leur corrige comment il faut faire. C'est des personnes concernées qui sont passées par là, qui essayent de faciliter ou de simplifier la procédure qui est très complexe
et très lente. Pour les autres, du coup, qui débarquent. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour comprendre déjà comment ça marche.
Tout à fait.
Et du coup, c'est un peu un échange de savoir.
Exactement. Okay. Et un soutien, c'est un espace aussi de parole. On n'a pas l'occasion de parler de son parcours, mais quand on est en face de personnes qui sont passées par là, on est plus libre, plus on se sent plus en famille, quoi. Et ça facilite le dialogue et la parole est plus ou moins libre. Et on essaie aussi de soutenir comme on peut, c'est-à-dire soit par des mobilisations, des rassemblements on a fait aussi une pièce de théâtre. C'était le jour de la manifestation. À travers la pièce de théâtre, on a expliqué la complexité du parcours d'un étranger malade. Et voilà, il y avait une petite touche d'humour, bien que c'est pas du tout drôle. Le parcours, c'est très compliqué, en fait. Et voilà, on a des outils. Il y a aussi, on a fait aussi le roman photo. C'est aussi une bande dessinée qui montre aussi le parcours. On parle toujours du parcours d'un étranger malade, parce que c'est important. La procédure la plupart des personnes ne connaissent pas la procédure, comment faire, comment procéder. Et certaines se retrouvent dans des... Ils font des erreurs des fois et ça revient sur leur...
Oui, qui jouent en leur défaveur après.
Voilà, exactement.
Les prises de décision.
Par rapport à la décision de la préfecture, oui, tout à fait. Et voilà. Il y avait l'occasion de cet espace à la chapelle, que vous nous avez gentiment invité. On vous remercie d'ailleurs. Et c'était une occasion de parler justement et d'informer les gens les personnes qui étaient présentes, qui est le collectif Étrangers Malades et qu'est-ce qu'il fait à travers l'exposition photo. C'était des expositions, enfin l'exposition des photos, des mobilisations, des ateliers, des réunions depuis 2011, c'est-à-dire 4 ans de... C'était 4 années de... une histoire, toute une histoire. Et voilà, on essaye de voir comment essayer de faire parler de ça et essayer de trouver aussi les personnes concernées pour leur informer qu'il y a un collectif étranger qui existe et qui est là pour les écouter, pour voilà, créer un pont de solidarité, de soutien avec ces personnes-là.
Alors vous faites vos réunions à la case de santé Arnaud-Bernard ?
Voilà, c'est la case de santé qui nous ouvre son espace pour les réunions qui sont hebdomadaires. C'est tous les vendredis à 16h. Et voilà, c'est selon... c'est souvent des mobilisations parce qu'en ce moment-là, il y a de plus en plus de refus, il y a de plus en plus d'obligations de quitter le territoire français. Et c'est des personnes qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent en situation catastrophique, quoi. Il y a des personnes qui étaient même régularisées pendant des années, dernièrement, une personne qui était régularisée pendant 5 ans, qui avait un travail, une situation très stable, et se retrouve sans travail, sans logement, sans ressources, sans rien du tout. Et en plus, cette personne est malade, c'est-à-dire... Vraiment, il s'est retrouvé presque dans la dépression. Et voilà, on a ouvert cet espace pour ces personnes, pour qu'ils puissent venir voilà, parler de leurs souffrances, de leur désarroi, de leur... voilà.
Oui, tu nous expliquais tout à l'heure hors antenne qu'il y avait de moins en moins de titres qui étaient acceptés par rapport aux années précédentes. Sur cette thématique-là d'étrangers malades.
Oui, tout à fait. On remarque depuis janvier 2015, depuis 2014, déjà, il y a eu... déjà, la case de santé a fait une statistique. Ils ont constaté qu'il y avait 70% de refus par rapport à 7% de refus l'année d'avant. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est... On ne sait pas pourquoi, justement, on se demande pourquoi. On a essayé de voir avec la préfecture, on a essayé de contacter, enfin d'envoyer des courriers pour voir les associations, même le CTDSE, dont on fait partie, le collectif toulousain pour le droit à la santé des étrangers, a envoyé même un courrier pour voilà, poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi ce changement-là d'un seul coup, comme ça ? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à la loi ? Parce que voilà, la loi est, voilà, elle est respectée soigneusement et normalement, il n'y a pas de problème par rapport aux demandes et même au renouvellement de demandes. Parce qu'il y a aussi des refus par rapport au renouvellement. C'est-à-dire, l'année dernière, on dit que le traitement n'est pas disponible complètement et... Quelques mois après, on découvre que par magie, le traitement est disponible et que les pays sont modernes et je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un sérieux problème et on ne sait pas si c'est le médecin inspecteur qui a changé d'avis ou de politique, ou c'est la préfecture qui donne des avis en ignorant l'avis du MARS, du médecin inspecteur de santé publique. Et voilà, c'est pour ça qu'on est en train de voir comment faire, comment agir pour essayer d'avoir des réponses à ces questions-là. Parce que c'est de plus en plus fréquent en ce moment-là.
Peut-être on peut écouter le témoignage d'une personne du collectif lors de la soirée de la chapelle samedi 17.
C'est parti. Ça part.
Ça part.
Depuis plus de 4 ans, j'accompagne mon mari qui est malade. Tout a commencé lorsqu'on s'est enfui de l'hôpital de notre pays d'origine, l'Algérie, vers Toulouse, afin de trouver une prise en charge médicale digne d'un être humain en ce 21e siècle. On a tout laissé derrière nous, même nos propres enfants, faute de moyens et de visa. Dans l'urgence et la panique, on ne se rendait même pas compte des difficultés qui nous attendaient. On ne voyait que le bon côté des choses, en voyant la qualité du service médical, car là-bas, dans notre pays, c'est l'anarchie totale, dans les hôpitaux, alors sauf qui peut. Après être rassurée que mon mari recevait les meilleurs soins, entouré de bons médecins et de soignants compétents, je me rends compte enfin que les problèmes commencent, la galère avec tous ses synonymes. Plus une facture de plus de 80 000 euros à rembourser à l'hôpital. Quand tu es déni de tout droit et tu es abandonné à ton propre sort, aussi bien par ton pays d'origine que par le pays où tu te retrouves. Tu mènes deux combats à la fois, administratif d'un côté, pour justifier de ton séjour, et médical d'un autre côté, car tu es dans la lutte contre ta maladie. Dans ce combat, tu dois t'armer de courage, de patience et d'endurance pour supporter et résister tout au long de ton parcours. Ajoutez à cela le problème de l'hébergement et de la survie quotidienne. C'est plus qu'un parcours, c'est un combat continuel. Le malade oublie même qu'il est malade face aux divers problèmes rencontrés. Pire que ça, il est même amené parfois à prouver qu'il est bien malade et qu'il ne pourrait pas se soigner dans son pays d'origine. Quelle logique ! Qui peut penser que quelqu'un, Saint-Esprit, pourrait tout laisser ? Son pays, sa famille, ses enfants, ses amis, en gros une partie de sa vie. Tout ça pour se mettre dans la galère et les problèmes. Pourquoi s'aventurer et venir ici s'il était bien là-bas ? Quand on était de l'autre côté de la Méditerranée, on était très séduit par l'image qui nous a été donnée de la France, ses valeurs, la France qui lutte pour le respect des droits de l'homme, etc. Mais une fois arrivé ici, on se rend compte que tout est qu'illusion. Tu es exclu de la société avant même de l'intégrer. Tu es traité de différentes appellations. Profiteur du système généreux français, SDF, sans papier, comme si être sans papier était un délit. Mais heureusement que dans tout ce dilemme, on rencontre des personnes exceptionnelles. On apprend avec eux ce qu'est la vraie solidarité. On s'échange nos histoires, nos expériences, nos parcours et on se bat ensemble pour la même cause qui est le droit à la santé pour tous et toutes, car c'est un droit élémentaire pour tout être humain. Merci.
C'est bien en quarantaine, le monde t'a l'air pété. Pour toi chaque femme qui porte un voile, c'est pire qu'une bombe avec tes pieds. Un bâton de dynamite qui marche, donc dès que t'en croises, ta corse s'assèche. Et pour leur mal, c'est un peu pareil, sauf c'est leur barbe qui forme la mèche. Cousin, je me refuse d'être l'esclave de leur frustration. À chacune de mes craintes, ils me feront boire de leur chute de poisson. Je n'accepte pas, c'est les prises d'otages. Ils quittent nos bases et qui veulent qu'on vive dans une psychose la plus totale, cousin.
C'est bon?
Tout de suite, nous retrouvons notre intendant spécial qui va nous parler du visa Balladur.
D'accord. Ok. Donc, voilà, aujourd'hui, la semaine dernière, on fêtait les 20 ans, c'est pas une fête, mais bon, du visa Balladur. Donc en 95, mais oui, nous nous demandons. En 95, le visa Balladur est mis en place et qui oblige les personnes des Comores, des îles des Comores, à obtenir un visa pour pouvoir aller sur Mayotte. Alors, petit cours de géographie, les Comores, c'est un archipel de 4 îles, dont Mayotte, qui a eu son indépendance dans les années 60, et en 75, il y a eu un référendum qui est pas reconnu par l'ONU, pas reconnu par, par l'Union africaine, ni par l'Union des Comores, qui a fait que Mayotte reste dans le giron français, donc reste français, et tandis que les trois autres îles obtiennent leur indépendance. Et donc toutes ces îles-là fonctionnent ensemble, les gens vont régulièrement d'une île à l'autre, jusqu'à ce que, en 95, Balladur oblige à obtenir un visa payant, évidemment, et contre des garanties de ressources, des garanties de résidence, etc., etc., tout ce qu'on connaît sur la difficulté d'obtenir des visas, et qui fait que les personnes des autres îles, donc il y a trois autres îles, Anjouan, Grande Comore et Maëli, ne peuvent plus accéder à Mayotte. Évidemment, ils vont pas arrêter d'essayer de venir sur Mayotte, et simplement ça va compliquer les traversées, ça va faire des traversées de nuit, et ça va faire surtout près de 12 000 morts, enfin plus de 12 000 morts selon les autorités comoriennes depuis ces 20 dernières années, par le fait qu'ils se noient régulièrement, un peu de la même façon que les personnes qui traversent la Méditerranée pour l'Espagne ou pour l'Italie plus près de chez nous. Donc voilà, c'est ça les 20 ans du visa Balladur, c'est une occasion pour des interassociations genre Migre Europe ou d'autres associations qui se réunissent pour faire un communiqué de presse pour dénoncer ces 20 ans de visa Balladur en disant que le visa Balladur tue. C'est aussi l'occasion de mettre la focale sur Mayotte et sur le fait que dans cette île-là, qui est donc une île française, selon la France, les droits des étrangers sont encore plus trahis, bafoués, qu'en France métropolitaine. C'est-à-dire que, pour exemple, il y a environ 15 à 20 000 éloignements forcés à Mayotte par an ces 5 dernières années, c'est-à-dire le même nombre, le même chiffre que dans la métropole, qu'en métropole. Il y avait 16 000 éloignements forcés en Mayotte en 2013 contre 21 000 en métropole, donc très proche, des chiffres très proches, pour une population de 200 000 personnes. Il y a plus de 3 000 enfants mineurs isolés à Mayotte, de la même façon, qui les parents vont les envoyer à Mayotte pour qu'ils obtiennent une meilleure vie, enfin en tout cas plus d'opportunités, et ils vont se retrouver à Mayotte avec très peu de droits. Là encore, il y a beaucoup d'enfants qui se font enfermer dans le centre de rétention, alors même qu'il n'y a pas d'endroit réservé dans le centre de rétention de Mayotte pour les enfants, qui vont se faire reconduire même s'ils ne sont pas accompagnés, enfermer et reconduire avec des adultes qu'ils ne connaissent pas. Voilà, enfin, grossièrement, c'est encore plus de dénégation de droits pour les étrangers à Mayotte, dans une archipel qui, encore une fois, pour eux, c'est, enfin en tout cas pour la majorité des personnes vivant en Comores, Mayotte fait partie de leur paysage culturel, de leur vie, et cette imposition du visa Balladur, non seulement ça tue, mais en plus ça a une dimension post-coloniale ou même colonialiste tout simplement. Voilà, après, au-delà des morts dans la mer, il y a aussi le fait qu'il y a un tiers de la population, enfin il y a 70 000 sans-papiers estimés à Mayotte, donc de la même façon, donc sans-papiers, sans droit ou de moins, très peu de droits, donc ils vont être précarisés, qui vont être esclavagisés, etc., etc. Et ce qu'il faut juste bien se retenir, c'est que c'est pas le fait qu'ils prennent les bateaux, c'est pas leur traversée qui fait qu'ils meurent, parce que les traversées entre îles, ça se passait auparavant, c'est bien la militarisation des côtes de Mayotte du fait du durcissement des droits et des règlements sur les étrangers, qui fait qu'ils sont obligés de prendre des routes plus longues, de traverser la nuit, de traverser très nombreux par des passeurs qui en profitent pour arrondir leur fin de mois, qui fait que les morts sont encore une fois de 12 000 ces 20 dernières années. Donc voilà pour les 20 ans un anniversaire qui n'est pas forcément très joyeux à fêter, mais qui est important à se souvenir. Et juste un truc, les progrès mis en place par Valls, c'était, on est passé de 140 à 100 personnes dans le centre de rétention de Mayotte. Donc c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui sont enfermées dans le centre de rétention de Mayotte peuvent obtenir 1,37 m² par personne dans le centre de rétention. Voilà.
Ça, c'est une amélioration qu'il fallait...
Évident, merci, je pense.
Merci, merci. Bah voilà, tout ça est bien réjouissant. On peut constater que les collectifs de lutte pour la liberté de circulation ont encore de beaux jours devant eux. Du coup, si vous voulez rejoindre la CLIM, par exemple, ou le collectif Étrangers Malades, si vous êtes concerné, vous pouvez nous envoyer déjà, nous contacter sur l'adresse mail à clim@riseup.net, ou bien nous retrouver lors des réunions qui se tiennent à peu près les 8 et 25 du mois. Donc ce mois-ci, ce sera le mardi 10 février, et le mercredi 25 février, à 19h à la pizzeria Belfort. Et pour l'émission, vous pouvez réécouter les podcasts et tout apprendre sur le visa baladur, bien révisé, en podcast sur le site internet de Canal Sud, qui est aussi, l'émission est aussi rediffusée demain à 14h.
À 17h.
17h. Voilà, voilà. D'autres choses à ajouter ?
Ouais, peut-être un rappel sur le rassemblement de demain à 18h30. Au Square Charles de Gaulle, rassemblement contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc rendez-vous à 18h30 demain au Square Charles de Gaulle, Capitole.
Très bien. Alors tout de suite, c'est Bruit de tôle après un petit son.
Eh, salut.
Salut, salut.
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 Dans un monde blanc et rouge sang, d'où je viens, y'a pas de fin de mois, c'est tous les jours, ça s'appelle en noir, c'est le ghetto sans les tours, c'est où les dirigeants détournent et on est tous dans la merde. Beaucoup voudraient se téléporter, ressusciter, coucou. Chez moi c'est germinal, alors j'ai mis le rap en arme, l'état en ligne de mire avant, rime terminale. La justice conduit à tremper la plume dans l'encrier. Dans certaines contrées, lèvres cousues au fil barbelé. J'hallucine mais si on convainc de façon subtile. Un pot de Beaujolais sous l'armée, ça t'oublie tes principes. Ici y'a pas d'MC conquérant de militants arrogants. Rien même si MC disent mais on vise dans ta sans prendre de gants. Enfants de Babylone, on dresse un constat concernant. Vise des missiles, nos dirigeants nous divisent comme nos grands-parents.
Levez le poing en l'air,
faire du rap sans concession.
Levez le poing en l'air,
réclamer rétrocession.
Levez le poing en l'air,
crier la révolution.
Levez le poing en l'air,
ne pas se taire.
Levez le poing en l'air,
faire du rap sans concession.
Levez le poing en l'air,
réclamer rétrocession.
Levez le poing en l'air,
crier la révolution.
Levez le poing en l'air,
levez le poing en l'air.
Je sors à peine la tête, la bouse à chaque phase. Prends l'inspiration dans les bas-fonds de la misère sociale. Amène le tout à prendre de la hauteur, cherche l'élévation. Morale, spirituelle, mon rap touché par chaque injustice, violence policière, expulsion, discrimination me donne des ulcères. Les murs serrent l'étau, la rue sert bédo, éteint les cerveaux, alors j'amène ma part de lumière. Les problèmes restent, donc les mêmes thèmes reviennent. Si ça te gêne, écoute les watts sur les ondes hertziennes. On fait des nôtres, sur la prod à Sylvano et frère, on sert pas sans demander. Comme l'arche de Zoé, les plaies sont béantes, la douleur est vive. On recule à pas de géant et les agents assassinent. Qui t'a dit qu'on s'assagit, le sang plonge. Toujours tant que le sang gicle, on t'y sort l'artillerie lourde.
Levez le poing en l'air,
faire du rap sans concession.
Levez le poing en l'air,
réclamer rétrocession.
Levez le poing en l'air,
crier la révolution.
Levez le poing en l'air,
ne pas se taire.
Levez le poing en l'air,
faire du rap sans concession.
Levez le poing en l'air,
réclamer rétrocession.
Levez le poing en l'air,
crier la révolution.
Levez le poing en l'air,
ne pas se taire.
Ne pas se taire.
Ouais, alors c'était Riam et sa clique avec le poing en l'air. Et juste pour faire un petit clin d'œil, ils étaient venus le week-end dernier au week-end de soutien de la Créa. Et c'était une pure soirée et c'était vraiment un bon moment. Du coup, voilà, c'était un petit clin d'œil à elles et eux. Et voilà.
Un bon moment retransmis en direct sur les ondes de Canal Sud.
Ouais. Non, c'était chouette.
Voilà. Alors, on démarre... Juste un petit tour en Italie.
Donc, où Eri De Luca, donc un auteur italien de 64 ans, qui est connu pour ses nombreux livres, mais aussi pour son passé militant dans les années 70 et 80, comparaissait à Turin le mercredi 28 janvier pour apologie de sabotage. Donc on entend beaucoup...
Apologie de sabotage.
Oui. On entend beaucoup parler de liberté d'expression en ce moment, mais apparemment, ça dépend vraiment de ce qu'on dit. Donc là, en tout cas, lui, il était donc accusé d'apologie de sabotage. Et avant son procès, il a répondu aux questions de différents journaux. Et nous en avons sélectionné quelques-unes. Vous avez rendez-vous avec la justice au tribunal de Turin. On vous accuse d'avoir incité publiquement à commettre un ou plusieurs délits et infractions aux dépens de la société LTF et du chantier TAV de la Maddalena di Chiomonte. Pourquoi le parquet vous reproche-t-il ce délit ? Il faudrait s'entendre sur le verbe saboter et sur le substantif sabotage. Il n'implique pas forcément des dommages matériels. Une grève improvisée peut saboter la production. L'obstructionnisme parlementaire peut saboter une loi. Un ordre mal exécuté est lui aussi un sabotage, et inculper un écrivain pour ce qu'il écrit, c'est saboter son droit à la parole. On m'accuse d'un délit d'opinion. Je serais donc coupable d'avoir soutenu lors d'une interview téléphonique que le sabotage des travaux pour la liaison ferroviaire Lyon-Turin, dite TAV, était la seule solution pour mettre un terme à une entreprise coûteuse, inutile et dévastatrice dans le Val de Suse, dans le Piémont. Et d'avoir en plus affirmé qu'on ne peut se permettre de plaisanter sur l'amiante et l'uranium qui ont été détectés lors des travaux de terrassement. On m'accuse aussi d'avoir dit que les anti-TAV n'étaient pas des terroristes, car s'ils utilisaient des cisailles, c'était seulement pour couper des barbelés. Pourquoi cet emballement juridique autour de vous ? Durant ces deux dernières années, le procureur de Turin a incriminé plus de 1000 personnes pour leur résistance au projet ferroviaire. Il y a eu une accélération de la répression contre un mouvement de masse. Mes mots ont été pris pour cible afin de l'empêcher d'avoir plus de retentissement. Vous ne ferez pas appel après la sentence. Pourquoi ? Mon droit à la parole, je le défends dans ce que j'écris, pas dans une salle de tribunal où mes mots sont menottés. Ma défense est à l'extérieur, dans le pamphlet que je viens de publier, La parole contraire aux éditions Gallimard. D'ailleurs, en ce moment, dans toute l'Italie, des groupes organisent des lectures publiques de mon livre. On en a recensé plus d'une centaine. C'est la meilleure défense possible. En comparaison, ce qui se passera au tribunal est une formalité pour moi. Et au-delà, des éditeurs étrangers traduisent mon livre et le diffusent pour rendre plus difficile la désinformation. Ces initiatives sont un moment de confrontation entre la liberté de parole et la négation de ce droit. Vous avez rendez-vous aussi avec votre passé de militant d'extrême gauche. Vous avez été responsable du service d'ordre de Lotta Continua. Les dirigeants de votre mouvement ont été condamnés et ont fait de nombreuses années de prison à la suite de l'assassinat du commissaire Calabresi en 1972. Or, vous faites la distinction entre terrorisme et lutte armée. Une distinction qui tendrait à absoudre les nombreuses agressions physiques des années de plomb. Si on avait parlé de terrorisme lorsque la voiture de Carrero Blanco sautait en 1973 en Espagne lors de l'opération Ogro de l'État, dont Euskadita Katachuna, cela aurait été jugé absurde. On a évité de le faire car il s'agissait d'une guerre légitime. Même constat pour l'enlèvement d'Aldo Moro et l'élimination de son escorte en 1970 en Italie. Le mot terrorisme est parfaitement impropre. Parce que Moro était accompagné d'hommes en armes, qui étaient donc en guerre. Je ne me trouvais pas Via Fini, le lieu de l'enlèvement d'Aldo Moro, mais je tiens à affirmer que le qualificatif de terrorisme est aberrant. Il n'y a terrorisme que lorsque l'on frappe des gens sans défense. Du bombardement de Guernica en 1937 en Espagne, à l'attentat de la Piazza Fontana en 1972 en Italie. Lorsqu'on tue des innocents au hasard. Personnellement, Je soutiens qu'il n'y a aucune continuité entre ce que j'ai fait comme militant de l'OTA Continua et ma lutte d'aujourd'hui contre la TAV, où j'utilise mon crédit d'écrivain pour défendre une petite communauté montagnarde écrasée par la violence de l'État. Je ne suis plus le militant révolutionnaire que j'ai été, tout simplement parce que la communauté dans laquelle je militais a disparu. Elle a été dissoute, et moi avec.
Voilà, c'est intéressant quand même comme parole. Et on en parle souvent sur cette antenne de cette lutte, donc de ce projet, un gros, grand projet inutile qui veut relier Lyon-Turin. Et là, il faut dire qu'il y a une opposition réelle, efficace, qui dure depuis des années, et avec de la répression, bien sûr. Alors là, c'est un communiqué que je vais vous lire. C'est le communiqué de Radio Dio à Saint-Étienne, qui est une émission anticarcérale, l'émission Papillon, hein, et le communiqué est de cette émission, pardon, anticarcérale Papillon, comme nous, Bruit de Tôle. Et donc, ils ont été convoqués en tant que témoins par la police judiciaire de Lyon dans le cadre d'une commission rogatoire portant sur la lutte des prisonniers survenue en 2012 à Roanne. Nous, animateurs de l'émission Papillon, souhaitons contextualiser cette enquête. Entre 2012 et 2013, de nombreuses luttes individuelles et collectives ont eu lieu dans différentes détentions un peu partout en France. Des prisonniers témoignent, rédigent des plateformes de revendications, des pétitions, tournent des vidéos et pour se faire entendre, certains réussissent parfois à entrer en contact avec des journalistes ou à accéder à Internet. Ils ne dénoncent pas uniquement leurs conditions de détention. Ils exigent que cesse le racket et l'exploitation subie au profit d'entreprises privées. Ils se mobilisent contre l'arbitraire et la répression de l'administration pénitentiaire, les violences des matons, le cumul des peines à l'intérieur, les régimes différenciés, les quartiers d'isolement et les mitards. Ils réclament des aménagements de peine et le rapprochement familial. Ils hurlent le manque de soins, les morts en détention. Pourtant, les médias privilégient le discours corporatiste des syndicats pénitentiaires et rares sont ceux qui s'attachent alors aux paroles de l'intérieur pour rendre compte de ce qui se passe. Malgré une faible audience, les médias alternatifs et anticarcéraux ont à cœur d'assurer un relais régulier de la situation des détentions pour soutenir les prisonniers et poser le problème politique de l'enfermement et de l'existence même de la prison. Le centre de détention de Roanne a ouvert en 2009. On constate très rapidement des incidents en détention qui sont de plus en plus judiciarisés. Le tribunal local, qui était menacé de fermeture, retrouve alors un peu d'activité. Et c'est bien dommage pour les prisonniers qui voient leur peine se cumuler. Nous tentons alors de comprendre et de faire savoir ce qu'il s'y passe sur la base des écrits et des dires des prisonniers, ex-prisonniers et parfois de leurs proches. Certains se retrouvent en conflit larvé avec l'administration pénitentiaire. D'autres subissent des mauvais traitements de la part de surveillants. Nombreux croupissent en régime fermé au quartier D0. Peu bénéficient de permissions de sortie et d'aménagement de peine. Des familles sont humiliées au parloir. À tel point qu'en 2012, parce qu'ils ne sont pas des chiens, des prisonniers rédigent une lettre de revendication collective et anonyme. Un peu plus tard, une charge de surveillance sur des prisonniers refusant de remonter de promenade est filmée et diffusée sur Internet. Encore récemment, entre novembre et décembre 2014, trois prisonniers prennent le risque de monter sur un toit pour partir de cette prison, même en transfert disciplinaire. En 2012, ce qui se passe au CD de Roanne revient régulièrement sur la place publique et des actes de solidarité avec les prisonniers ont lieu à l'extérieur. Ne pouvant tolérer autant de révoltes médiatisées et soutenues, les surveillants syndiqués sont passablement énervés de ne plus avoir le monopole de la parole et de subir une dénonciation frontale. L'administration pénitentiaire doit reprendre le contrôle sur la détention et sur la circulation de l'information entre dedans et dehors. Si elle concède de menues améliorations des conditions de détention, elle orchestre surtout une répression sévère, divise les détenus et cherche les meneurs. Une commission rogatoire est alors ouverte afin de sanctionner une liste d'actes soi-disant commis en lien avec ces événements. Nous, animateurs de l'émission Papillon, avions pour certains un proche incarcéré dans ce centre de détention à qui nous rendions visite au parloir. Cela a pu être un prétexte pour la pénitentiaire de le désigner comme un de ses meneurs. Si la police judiciaire s'intéresse aujourd'hui aux activités de ses proches, amis ou contacts, elle s'intéresse également à d'autres prisonniers soutenus publiquement à cette époque, ainsi qu'aux médias comme L'Envolée, Rébellion et Le Numéro Zéro, qui ont relayé les histoires de Roanne et aux différentes formes d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Nous profitons de cette occasion pour adresser un message aux prisonniers qui n'acceptent pas la prison et l'enfermement. Depuis des années, certains sont en conflit avec des surveillants, portent plainte contre l'administration pénitentiaire, rédigent des plateformes de revendication, refusent de réintégrer leurs cellules, participent à des mouvements collectifs, font des prises d'otages, etc. Vos paroles sont filtrées, censurées et rarement audibles. Vous êtes passé par les cases justice et prison, eh bien vous êtes condamné au discrédit. Vos prises de position, vos luttes seraient scandaleuses. Vous exprimez souvent la nécessité de l'existence de médias, de collectifs anticarcéraux et d'associations de soutien qui vous donnent la parole et brisent l'isolement. Cela dit, vous êtes les mieux placés avec vos proches pour décrire vos expériences propres du quotidien carcéral comme préalable à la critique de l'institution et du pouvoir pénitentiaire. À l'heure où l'enfermement se généralise dans un contexte économique et social toujours plus dégradé et dégradant, il nous semble essentiel de dire que ce que vous vivez nous concerne, à nous tous, dehors, de nous y intéresser, d'établir et de renforcer des solidarités. Signé les animateurs de l'émission Papillon, donc qui sont passés devant la justice pour, lors de l'enquête, judiciaire. Voilà.
Alors, on continue du coup avec le cas de Tuteo Bea, donc, qui a été soulevé par l'Observatoire international de prison. Donc, Tuteo Bea, c'est un homme de 59 ans qui était incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Atteint d'un cancer, il est décédé le 28 octobre 2014 à l'unité hospitalière sécurisée de Bordeaux. Il n'avait pas voulu demander une suspension de peine médicale, si bien que l'administration pénitentiaire et les soignants l'ont laissé mourir sous écrou. Ce qui est quand même assez rare, parce qu'en général, l'administration pénitentiaire se débrouille pour que les malades soient transférés à l'hôpital et ne fassent pas, du coup, partie du décompte des morts en prison. D'origine tahitienne, M. Bea purgeait sa peine en métropole, comme beaucoup d'ultramarins condamnés à une très longue peine, souvent contraints de l'exécuter dans l'Hexagone, les établissements pour peine de l'outre-mer étant pour la plupart extrêmement surpeuplés. Comme plus des trois quarts de la population pénale de Saint-Martin-de-Ré, Tuteo Bea ne recevait aucune visite ni courrier. Aucun lien familial ne lui était connu, ni aucun contact avec l'extérieur. Seul, M. Bea n'avait pas essayé d'obtenir une suspension de peine pour raison médicale, dispositif permettant aux détenus dont le pronostic vital est engagé de finir leur jour en liberté. Atteint d'un cancer en phase terminale, il avait rédigé des directives anticipées afin de mourir à proximité de ses camarades en détention et de ses objets personnels. Sa famille, c'était eux. Il a souhaité leur dire adieu et distribuer ses objets personnels à ses amis co-détenus, explique l'Agence régionale de santé. Sa volonté de mourir auprès de ses co-détenus n'a néanmoins pas été respectée. Suite à une aggravation soudaine de son état de santé, il a été hospitalisé en urgence le samedi 25 octobre dans une unité hospitalière sécurisée. Il y était régulièrement suivi et venait d'y être hospitalisé une dernière fois entre le 20 juin et le 20 octobre. Il avait à ce moment émis le souhait de retourner dans sa cellule de l'île de Ré pour prendre l'air, disait-il à l'équipe médicale. Une nouvelle hospitalisation en soins palliatifs avait alors été planifiée pour début novembre. En détention, sa maladie était connue de tous ou presque. Un co-détenu le décrivait dans un courrier comme morbide, ayant des difficultés pour marcher seul et pour manger. C'est ce même détenu qui a alerté son avocat quand Tuteo Bea a passé toute la journée du 23 octobre sans bouger une seule fois de son lit. Ses co-détenus ont alors pu bénéficier d'un dispositif dérogatoire de visite organisée dans sa cellule afin de le veiller jusqu'à son départ à l'unité hospitalière sécurisée. Ils avaient auparavant menacé de bloquer la cour de promenade face à ces situations alarmantes. Donc a priori, c'est donc parce qu'ils sont intervenus qu'ils ont pu bénéficier de ces visites dans la cellule de leur co-détenu malade. L'unité sanitaire n'a jamais établi par certificat que le pronostic vital de M. Bea était engagé, ni jugé nécessaire d'alerter les autorités judiciaires. C'est donc avec surprise que la juge de l'application des peines de La Rochelle a appris son décès quand l'Observatoire international des prisons l'a saisi. Elle a alors trouvé curieux que personne n'ait attiré son attention sur sa situation, côté médical ou pénitentiaire. Monsieur Bea avait demandé à être incinéré et que ses cendres soient dispersées dans les îles du Pacifique. Impossible néanmoins de savoir si cette dernière volonté du détenu a été mise en œuvre. Selon l'Agence régionale de santé, la responsabilité en revenait à l'unité hospitalière sécurisée, laquelle estime n'avoir pas d'obligation concernant la dispersion des cendres de M. Béa et renvoie la question à l'administration pénitentiaire. Donc même quand un prisonnier est mort, il continue à être coupable et les institutions continuent à se renvoyer la balle. C'est assez affligeant.
C'est assez cynique même. Hein. Bon, ben on revient sur la bonne ville de Toulouse. Alors là, c'est un texte où nous avons signé d'un certain Cyril Doumergue, qui est très très content de ce qui se passe à Toulouse. C'est le grand chambardement avec la police municipale. Le maire de Toulouse a annoncé la mise en action de brigades anti-marginalité. Les premiers résultats des brigades d'intervention rapide motorisées sont positifs. Les recrutements s'accélèrent. J'invente pas, c'est le texte, je me dis, le ton, il est vraiment content lui. Hein. La police municipale de Toulouse vit des heures fastes depuis le retour de Jean-Luc Moudenc au Capitole. Armement de jour comme de nuit, recrutement de 150 agents en 30 mois, brigade d'intervention rapide à moto, brigade anti-marginalité, le point sur les évolutions de ce service à part. Donc, brigade d'intervention rapide à moto. Alors là, premier résultat positif. Après 3 semaines d'existence, les premiers chiffres des policiers motards font apparaître un taux de réponse aux demandes des Toulousains de 75%. Ce chiffre était de 50% auparavant, note Olivier Arsac, l'adjoint en charge de la sécurité. Les 13 agents à moto, qui seront 20 d'ici juin 2015, peuvent intervenir en 6 minutes après un appel à Allo Toulouse. L'appel du numéro qui est affiché dans les sucettes publicitaires au trottoir et qui n'appelle à délation. Donc, en effet, c'est bruit, violence conjugale, non-respect du code de la route. Tout cela fait partie des interventions les plus fréquentes. Alors, on se sent protégé. Mais il y a mieux quand même. Il y a les brigades amis.
AMI. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Comme un ami. C'est les brigades amis. Elles arrivent. Il dit amis. Et en effet, amis, ça veut dire action. Marginalité, insertion.
Ça me met pas trop en confiance, moi, amis, là, comme ça.
Et bien voilà, les policiers municipaux seront associés à des travailleurs sociaux, à des spécialistes médicaux psychologiques pour la prise en charge des marginaux qui, donc, occupent de manière excessive l'espace public.
Il faudra qu'ils déterminent ce que c'est d'occuper l'espace public de manière excessive, mais bon.
Ben, un peu comme l'histoire des bancs à Angoulême, là. Hein. Il faut pas se mettre devant les beaux commerces parce que ça. Voilà. Donc, en fait, après signalement, à ce fameux numéro que je ne vous donnerai pas de délation, donc. 3 niveaux d'intervention seront mis en œuvre. Brigade à pied avec des travailleurs sociaux, puis brigade canine, et enfin fourrière animale en cas de persistance de troubles à l'ordre public. Donc voilà, ça c'est les marginaux qui ont des chiens et qu'on va priver de chiens. Alors ça c'était, je vous dis, alors, l'intervention rapide moto, les amis, n'est-ce pas ? Et puis là c'est les caméras de vidéo de protection. Enfin, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le maire avant il avait dit non. Et là la première caméra de l'ère Moudenc est entrée en fonction fin décembre 2014, place Arnaud Bernard. 9 autres caméras doivent être en service dans le même quartier. Donc ça fera 10 caméras pour Arnaud Bernard. Des problèmes de connexion sous-sol reportent cette entrée en service. Ah, il y a quelques petits soucis. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Dès le mois de mars, le déploiement va s'accélérer partout en ville. Les quartiers Bayard, Belfort, Saint-Aubin, Saint-Pierre, Dorade, la place Occitane, le Faubourg Bonnefoy, Amouroux, les Isards, les Pradettes font partie des quartiers prioritaires. On avait déjà parlé ici, je crois qu'ils veulent en mettre plus de 200, des caméras. Il y a aussi des opérations dans les quartiers avec la police nationale. Donc la nouvelle convention signée en décembre 2014 prévoit que, toujours ce numéro d'Allo Toulouse, livre des données à la police nationale à des fins d'enquête et de statistiques. L'État mettra également à la disposition des renseignements à la police municipale. Des opérations conjointes seront donc menées dans les zones de sécurité prioritaires. Donc ce petit numéro. Alors il y a aussi une autre chose que je trouve géniale, les gyropodes sont toujours là.
Qu'est-ce que c'est ?
Gyropodes. Alors en fait, c'était pour se déplacer que la police municipale avait misé sur des cylindrés plutôt que sur l'électrique. 10 motos, donc, de 950 cm3 et qui équipent la nouvelle brigade d'intervention rapide. En juin 2015, 20 motos seront en service. Par contre, les gyropodes ne sont plus vraiment en vogue. Alors les gyropodes, c'est 2 machines électriques à 2 roues que l'ancienne municipalité avait acquis, mais qui ne roulent soi-disant qu'à 20 km/h. Donc avec la nouvelle municipalité, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est des motos qui valent 10 000 euros pièce, alors que les petites machines valaient 7 000 euros, là, et puis il n'y en avait que deux. Hein. Donc ces gyropodes, eh ben, c'était une erreur. En revanche, la ville prévoit d'acquérir 3 véhicules motorisés en cours de l'année 2015. Il y a 37 véhicules 4 roues, donc voitures et camionnettes, 35 scooters, 40 VTT. La brigade équestre, qu'on voit souvent Arnaud Bernard, il y a 5 agents et 5 chevaux, qui est affecté soi-disant aux zones vertes. Moi, je l'ai vu plutôt Arnaud Bernard, mais enfin bon. La sécurisation aussi d'événements sportifs, festifs, culturels, opération tranquillité vacances. Voilà, alors donc le chiffre, c'est que 75 policiers municipaux seront recrutés. Ils s'ajouteront 30 agents déjà recrutés en 2014. Donc il y aura 255 policiers en municipal à Toulouse. Et les effectifs iront jusqu'à 330 d'ici fin 2007, soit deux fois plus qu'au début du mandat. C'est donc l'article positif de Cyril Doumergue sur cette police municipale à Toulouse qui nous protège.
Bien, bien, bien. Ils essayent d'infléchir le taux de chômage, peut-être. Que tes emplois de keuf.
Ouais. On passe aux annonces directement.
Oui, oui. Hein.
Ouais. Alors, la première, par date.
Alors, la première, c'est moi. Donc, c'est une manifestation qui a lieu le vendredi 30 janvier à 18h30 au square Charles de Gaulle à Toulouse. Donc, c'est au Capitole, en gros, au niveau du métro. Et c'est une manifestation contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme.
Voilà, donc en lien avec l'actualité. Mais surtout, juste à peine une demi-heure après, enfin bon, quand vous êtes en cours de manif, vous êtes invité à vous rendre à la chapelle. Donc on en parle souvent ici, c'est 36 rue Daniel Casanova à Toulouse. Et en fait, c'est pour soutenir le planning familial de la Haute-Garonne, qui a été obligé de fermer ses portes, et justement pour manifester et essayer de ne pas les fermer définitivement. Rappelons que c'est une association qui existe depuis 1974 et qui est là pour combattre les inégalités sociale, qui lutte pour que soit reconnu le droit fondamental de disposer librement de son corps, le droit à l'éducation sexuelle, lutte contre l'oppression spécifique des femmes, contre toute forme de discrimination et de violence, et notamment de violence sexuelle. Donc le planning familial vous invite à une réunion d'information publique, vendredi donc 30 janvier, à 19h à la chapelle au 36 rue Daniel Casanova. Et pour faire écho à cette annonce...
Vous voulez les soutenir d'ailleurs, pouvez adhérer au planning familial. Ça les aide toujours un peu au niveau financier et c'est toujours sympathique de
soutenir. Pour en savoir plus, si vous ne pouvez pas vous déplacer, oui, il y a une adresse, c'est haute-garonne-planning-familial.org.
Donc une pétition aussi en ligne à signer.
Voilà, c'est ça. Donc là, la lutte, on en a déjà parlé, je crois, sur cette antenne. Et puis alors, pour faire un peu écho, figurez-vous que c'est soi-disant l'événement des 40 ans de la loi IVG. Donc justement, ça fait bien un lien. Le combat continue, en effet. Et là, c'est une réunion qui... C'est samedi, donc 31 janvier, de 16h à 19h, salle du Sénéchal, avec différentes intervenantes militantes féministes qui reviendront sur cette loi des 40 ans de la loi anti-IVG, et on espère que des annonces seront faites et qu'il y aura un lien qui demande aussi de l'argent, hein, parce qu'on en est carrément là. Hein, c'est que si jamais il y a un redressement judiciaire du planning familial, non seulement il ferme définitivement, mais plus, il ne peut plus se rouvrir en tant que planning familial. Ou alors il doit payer ses dettes. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est urgent. Il y a des luttes à mener aussi à l'extérieur, puisqu'on sait que vous en menez à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, il faut se bagarrer.
Donc c'est Bruitall qui se termine, le direct de Bruitall. Donc la rediffusion, c'est le vendredi de 17h à 18h. Et en attendant l'émission de dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous serons le premier jeudi du mois. Et donc ce sera au tour de l'envoler, prendre l'antenne.
Qui vient juste de sortir son dernier numéro.
Et oui, donc sans doute ils en parleront donc la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez nous écrire à Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou par mail à Bruit de Tôle, donc bruit avec un S de Tôle, D-E-T-O-L-E-S, @no-log.org.
Bonsoir, c'est fini.
Bonsoir, courage et...
À bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté. N'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté.